Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter au programme jusqu'à 13h ce samedi, la semaine des humoristes. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis dans une trentaine de minutes, la mondialisation en question. Libre-échange contre protectionnisme, c'est un vieux débat, mais débat ravivé aujourd'hui par les attaques de Donald Trump contre l'OMC, contre les accords de libre-échange, par des mesures protectionnistes et l'Union Européenne dans tout ça. Et quel est le coût humain de la mondialisation? L'équipe du grand face-à-face s'ouvrira le débat avec l'un des grands spécialistes de ces sujets. Il a négocié un nombre considérable d'accords commerciaux et il croit que la mondialisation est un progrès. Ancien commissaire européen, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver en grande forme malgré la grippe, Gilles. Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par Anne-Cécile Perrin. Dans l'actualité, la recrudescence d'actes antisémites. À Paris, un restaurant Bagelstein vandalisé par un tag. Écoutez la réaction de Tanguy Bassurot.
Bref, en 2019, un ou des gonzes passent devant Bagelstein, se disent « ça sonne juif ce truc » et ils sont tellement cons que le jour où ils verront la pancarte d'entrée du Liechtenstein, ils feront pareil. Hein. Et là, ils écrivent « Juden » dessus, comme il y a 80 ans outre-Rhin, quand les Allemands n'étaient pas ces types placides en claquettes de cuir, qu'il était dans les Landes, font crever la faune marine en répandant dans l'eau leur crème solaire indice 124. Or, à la limite, si on taguait sur la vitrine de la brioche dorée la phrase « on dit chocolatine, pas pain au chocolat, bande de chiens », ça passerait, mais le mot « Juden » Juden, historiquement, c'est plus chargé que la laine d'un rocker mort dans son vomi. Donc écrire Juden sur la vitrine de qui que ce soit, c'est atroce. Tout le monde est d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, merci de ne pas me dire sur les réseaux sociaux à la suite de cette chronique, je m'en fous de vous.
Et dans l'actualité aussi, l'affaire de la Ligue du LOL. Pablo Mira a une idée très claire et très originale du cyberharcèlement.
La réalité, elle est ce qu'elle est, c'est qu'aujourd'hui en 2019, il n'y a pas un seul pays au monde qui ne connaisse pas de cyberharcèlement. Bon, sauf peut-être voilà la Suède à la rigueur, mais ces gens-là ne sont pas humains, hein, ils sont mi-saumon, mi-table basse. Donc le cyberharcèlement, on en a besoin, nom de Dieu. D'autant plus que nous les mecs, bah voilà, je le dis, on est trois, voilà, on est en minorité aujourd'hui. C'est notre dernière zone de liberté. Égalité égale minorité, je sais. C'est notre dernière zone de liberté. Ouais, je suis désolé, parce que si on nous retire le cyberharcèlement, il va nous rester quoi, nous, hein? L'absolu totalité du reste de la vraie vie, c'est ça? Franchement, si c'est pour vivre dans un monde pareil, moi je préfère fuir au Venezuela avec Flyrider.
Et puisqu'il y a une ligue du LOL, Charline Vanhoenacker a imaginé sa version féminine, la team mort de rire.
Bah, c'est vrai qu'il vaut mieux pas être notre cible, hein, on est comme des hyènes. Et on s'est fait les dents sur un tout jeune mec qui voulait devenir journaliste alors qu'il avait un blog sur le foot. Déjà le sujet de merde. On lui a pourri son site, il recevait 400 commentaires haineux par jour, il comprenait pas pourquoi, il était tout paumé, on était mort de rire. Et quand on a l'ascendant sur les mecs, ça les rend ouf, hein. Ils sont à nos pieds. Hein. Moi j'ai qu'à claquer des doigts pour me taper la moitié du 11e arrondissement de Paris. Faut dire que toute la journée, je bosse sur des problématiques dites progressistes, type égalité homme-femme. Je pisse de la copie bien pensante à longueur de journée. Le soir, j'ai besoin de me détendre. Alors, la dernière fois, il y a Fanny. Fanny, c'est la numéro 2 de chez Grazia. Elle est terrible, j'adore. La dernière fois, pour déconner au boulot, on a fait un raid. On avait appris que le frère de Jérôme était malade. Jérôme, c'est un gars tout naze qui écrit de la merde pour SoFoot. Et en plus, il est noir. Du coup, les copines avec moi, on a floudé son compte avec des photos du Ku Klux Klan. Mais bon, moi, j'étais dégoûtée. J'ai pas pu y aller parce que j'avais mon édito à finir sur Nelson Mandela.
Tout autre sujet, la réforme de l'éducation nationale. Faut-il rendre la présence du drapeau tricolore et des paroles de la Marseillaise obligatoires dans les salles de classe? Guillaume Meurice a mené l'enquête.
J'en ai rencontré, ils ont un avis, notamment ce jeune.
Je pense que c'est les bases, comme aux États-Unis.
Bon, est-ce que vous connaissez les bases alors?
Oui.
Qui a écrit la Marseillaise?
C'est Rougier de Lille.
Ça c'est bien, à quelle occasion?
Pour la guerre 14-18.
Oui. Allez, on n'est pas un siècle et des brouettes près. Ouais, on a dit les bases, hein. C'est assez large, c'est des bases un peu larges, quoi. Disons que bah, c'était entre la fin du Jurassique et la victoire de France Gall à l'Eurovision. Et c'est important de savoir ce que signifient, par exemple, les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français, les bases, hein, donc.
Je dirais le rouge, le sang de la Révolution, le blanc... blanc de l'AP et puis le bleu de l'UMP.
Le bleu de l'UMP.
Ouais, parce que bon, l'UMP, les socialistes font un peu n'importe quoi en ce moment, alors il y a peut-être un retour qui s'impose.
Hein. Ok, on est sur des bases assez larges, hein, quand même, liberté, égalité, Jean-François Copé.
Et puis éducation toujours avec une nouvelle collection de poupées Barbie, poupées inclusives. Les enfants veulent du réel, Tanguy Pastureau a un message pour eux.
Allez, ce matin, on vous dit tout, les chérubins. D'abord, comment on fait les bébés? C'est simple. Le parent 1 rencontre le parent 2 sur Tinder. Ils mettent la petite graine. Parfois, si c'est en club coquin, il y a le parent 3 et le parent 4 qui regardent. Et 9 mois après, tu es là. Et là, la galère commence, les pioupiou. On dort plus. On a la même vie que les matinaliers à France Inter. Et le parent 1, épuisé, quitte le 2. Là, il retrouve sa vie de célib. Il rencontre les parents 3 à 44 en l'espace de 7 mois. Puis, il décuite. Parce que les grands, ils boivent pas que du cacolac, les petits tous. Et ils dit, je vais supplier le parent 1 de me reprendre, mais c'est trop tard, parce qu'il est mort. Hein, on dit la vérité, les minouches. Il a fait du vélib dans un couloir partagé bus vélib. Le bus a gagné, le bus gagne toujours. Allez les pioupiou, bonne journée, amusez-vous bien. Vous avez au choix la Barbie gilet jaune, version 1 ou plusieurs yeux, selon si on a utilisé ou non DLBD, la Barbie SDF et la Barbie Alain Juppé qui fait Bordeaux-Paris dans son camping-car pourri. Au revoir les pioupiou.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Natacha Polony, Gilles Finkelstein, on démarre avec l'école qui a fait beaucoup rire les humoristes d'Inter. On parle étonnamment peu d'éducation à l'Assemblée nationale, mais il en est question à l'occasion de l'examen de la loi École de confiance. Et les députés ont donc voté pour que les drapeaux français et européens soient présents dans toutes les classes du premier et du second degré. Les paroles de l'hymne national également. Écoutez le député LR Éric Ciotti, qui est l'auteur de l'amendement voté par les députés.
Faire aimer la France dès le plus jeune âge, je considère que c'est quelque part aussi une digue contre les multiples fléaux qui menacent notre pays. Aimer la France, faire aimer la France dès le plus jeune âge, avoir ce sentiment patriotique, je crois que personne ne peut aujourd'hui, sincèrement, hormis quelques esprits marqués idéologiquement, s'y opposer.
Éric Ciotti, mercredi dernier, qu'en pense la spécialiste de l'éducation, Natacha ?
J'en pense qu'il est assez effarant qu'on ne parle d'école que quand il s'agit de décisions totalement anecdotiques. Parce qu'en effet, c'est totalement anecdotique. Alors, ça n'a rien de choquant, de dramatique qu'on mette le drapeau français et le drapeau européen dans les classes. Quand j'entends, par exemple, la FCPE expliquer que c'est un gris-gris identitaire, je suis consternée. Non, c'est pas un gris-gris identitaire, c'est un signe d'union de notre nation. C'est notre rapport à notre histoire et au peuple français qui se construit. Donc, voilà, simplement, ça ne changera rigoureusement rien à la question du sentiment d'appartenance des enfants, qui se construit de façon beaucoup plus complexe, notamment à travers la maîtrise de la langue. Donc je préférerais qu'on réfléchisse à la question un peu plus importante de savoir pourquoi nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire une école où les enfants de pauvres sont condamnés à échouer à l'école. Ça me semble plus important. Mais encore une fois, bon, c'est une anecdote.
Gilles.
Oui, bah je suis assez d'accord avec Natacha. D'abord, ce n'est pas l'amendement d'Éric Ciotti. L'amendement d'Éric Ciotti
ne portait que sur le drapeau français.
Que sur le drapeau français et pas sur le drapeau français et sur le drapeau européen. Et l'amendement d'Éric Ciotti proposait qu'il y ait chaque semaine les classes qui assistent à la levée du drapeau. Donc on était quand même dans autre chose. Dans autre chose d'ailleurs qui correspond assez peu à notre tradition, si l'on accepte la période de Vichy. Bon, donc on est revenu dans des eaux qui sont des eaux acceptables. On peut être circonspect sur la manière dont ça s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu réellement de débat sur un amendement qui a été adopté nuitamment. Il y a une forme de piège, et si vous avez raison, la FCPE, d'une certaine manière, y tombe. Donc, c'est difficile d'être réellement opposé. Le drapeau et l'hymne font partie des symboles de notre pays. Et en même temps, l'identité nationale telle qu'on veut la construire de manière positive, si on n'est pas dans l'instrumentalisation qu'a essayé de faire la droite et l'extrême droite depuis quelques années, c'est tellement plus que cela. C'est tellement plus long que cela et c'est tellement plus riche que cela. Une histoire, évidemment, une géographie, une culture, une langue. Et sur la Marseillaise, pour terminer par là, c'est bien de l'afficher. C'est mieux, et les extraits qu'on voyait,
oui,
elle le montrait, d'essayer d'en comprendre le sens, ne serait-ce que le fameux sang impur dont on doit abreuver nos sillons.
Mais c'est une vieille histoire en plus, la Marseillaise à l'école, Natacha.
Le fait, par exemple, d'apprendre par cœur au moins le premier couplet et le refrain de la Marseillaise, c'était un programme qu'avait prévu Jean-Pierre Chevènement, si je ne me trompe, en 84.
Absolument.
Et bon, là encore, ça me semble la base, que notre hymne national soit à peu près connu. On pourrait même pousser un peu plus loin. Hier, Mona Ouzouf, sur cette antenne, disait que si on pouvait, que si on faisait apprendre par cœur quelque chose à des enfants, elle trouvait que ça n'était pas plus mal. Et en effet, l'apprentissage par cœur d'un texte qui permet de mémoriser du vocabulaire, des structures grammaticales, c'est très bien. On pourrait aller plus loin, apprendre quelques couplets également intéressants de la Marseillaise, le couplet des enfants. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui permettent ensuite de s'accrocher et de raconter l'histoire. Gilles Finkelstein a tout à fait raison. Ce qu'il y a derrière, c'est la question du peuple qui s'assemble pour défendre la patrie, ses Valmy, c'est tout ça. Si ça pouvait passer dans l'esprit des enfants et qu'ils comprennent ce que ça signifie dans notre monde contemporain, là, ça commencerait à devenir intéressant.
Et puis, lutte des classes toujours. Cette semaine, les députés ont voté un amendement de la députée La République En Marche, Valérie Petit. Amendement qui stipule qu'à l'avenir, les mentions père et mère seraient remplacées dans les formulaires de l'éducation nationale par parent 1 et parent 2. Ça vous fait sourire ?
Non, disons que c'est assez anecdotique, ce ne sont que des formulaires scolaires, donc arrêtons de hurler, ce n'est pas l'état civil, hein, ce sont bien des formulaires scolaires. Il y a malgré tout quelque chose d'assez frappant dans cette démarche, c'est le fait qu'il s'agit d'éviter que des familles homoparentales ne se sentent discriminées par le rappel qu'elles ne constituent pas la norme. Et ce qui doit nous obliger à réfléchir, c'est ce rapport entre minorité et majorité. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que malgré tout, nous sommes dans un monde où l'idée de ne pas discriminer des gens qui ne sont pas dans la norme majoritaire aboutit à la modification d'un fait, d'un élément pour l'ensemble de la population et donc pour tous les autres. Donc ça veut dire que cette question du rapport minorité-majorité a une influence sur nous. Alors en revanche, il aurait quand même été un petit peu plus malin de mettre représentant légal sur une deuxième ligne représentant légal sans hiérarchie et chacun précise s'il est père, mère, repère, remère. Ou, enfin, vous voyez, plutôt que de mettre parent 1 et parent 2, il y a même une association de familles homoparentales qui dit ça va poser problème parce qu'en effet, la question de savoir qui est le parent 1, qui est le parent 2 va commencer à poser problème. On est dans une aberration. C'est idiot.
J'ai lu beaucoup sur Twitter notamment. En fait, les opposants traditionnels au mariage pour tous se récriminaient et hurlaient devant parent 1 et parent 2. C'est le bal des faux culs.
Pourquoi ?
Vous connaissez la célèbre formule de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils maudissent les conséquences. La cause, c'est que la gauche, Lionel Jospin d'abord avec le Pax, François Hollande ensuite avec le mariage pour tous, a reconnu le mariage de personnes du même sexe. La conséquence, et la conséquence inévitable, c'est que, du point de vue administratif, c'est vrai pour les formulaires des enfants, c'est vrai pour les formulaires de déclaration d'impôts, c'est vrai pour les formulaires, évidemment, de mariage, et bien on tire les conséquences. Donc, quand vous déclarez vos impôts, ce n'est plus le mari et la femme, c'est déclarant 1 et déclarant 2. Ben, c'est exactement la même chose pour les enfants. Donc, c'est le bal des focus. Si on veut s'y attaquer, on a eu le débat et on peut continuer à avoir ce débat-là. Mais il ne faut pas le prendre de biais, il faut le prendre de face. De face, c'est la question du mariage et ce n'est pas les conséquences administratives qu'on en tire. Alors, j'ai pu être sensible à l'humour de certains d'entre eux, hein, quand sur Twitter ils disaient bah, maintenant ça ne va plus être la gloire de mon père, ça va être la gloire de mon parent 1 et ça va être le château de ma mère, le château de mon parent 2. C'est drôle, mais il faut être cohérent.
Le grand face-à-face. Ali Badou sur France Inter.
Et dans l'actualité aussi, cette semaine, Alain Juppé qui a pris la décision de quitter la mairie de Bordeaux et de rejoindre le Conseil constitutionnel.
Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en retour.
une rupture amoureuse un jour de Saint-Valentin. Je vais trahir un secret, mais vous, l'homme de gauche, vous avez été ému par l'émotion d'Alain Juppé, Gilles.
Oui, je suis pas un juppéiste de la première heure. Hein. C'est pas.
Vous êtes particulièrement émotif.
Et alors peut-être que j'ai un cœur d'artichaut, peut-être que c'est lié à la grippe qui me fragilise un peu. Mais j'ai trouvé que c'était, que son émotion était émouvante. Alain Juppé, c'est quand même 40 ans d'engagement politique au service du pays. C'est une page qui se tourne. Et au-delà de sa nomination, les mots qu'il prononce sur ce qu'est pour lui devenu la politique doivent nous faire, je crois, réfléchir. Parce que il part pas seulement pour être nommé, il part aussi parce que il n'en a plus le goût, et il n'en a plus le goût parce que il considère, et quand on observe l'évolution du débat public, on peut le comprendre, que le climat politique est devenu délétère.
Il dit, Alain Juppé, dans ce discours de départ, ce discours de rupture, l'esprit public est devenu délétère, la montée de la violence sous toutes ses formes, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites dont un pays a pourtant besoin. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public est difficile à vivre et lourd à porter. Natacha.
Sur le constat, il a sans doute raison. Simplement, je voudrais rappeler une chose. En 1995, Jacques Chirac est élu après une campagne sur le thème de la fracture sociale et sur l'idée qu'il est absolument urgent de résorber cette fracture sociale, parce qu'elle se creuse et qu'elle détruit petit à petit la substance même du pays. Cette idée qui relève d'une forme de gaullisme social ou de conception républicaine au sens strict, est portée à l'époque par Philippe Séguin, mais c'est Alain Juppé que Jacques Chirac nomme à Matignon. Et le 26 octobre 1995, Jacques Chirac annonce qu'il change totalement de politique. Il ne fera pas la politique pour laquelle il a été élu. La fracture sociale, on s'assied dessus et on va continuer une politique d'adaptation à des règles qui sont des règles qui, en fait, font rentrer la France dans une forme de dérégulation et dans une forme d'obligation de respect de normes purement économiques. Donc, il y a un problème démocratique majeur qui aboutit à 3 semaines de grève absolument énormes qui ont fait reculer Alain Juppé, mais, en fait, cette politique-là est passée et nous en voyons les conséquences aujourd'hui, dans le discrédit des politiques, dans la colère d'une part de la population française qui s'est sentie totalement oubliée. Donc cette haine que dénonce Alain Juppé, peut-être qu'il a sa part dedans, un tout petit peu au moins.
Gilles,
je crois que le tournant de 95 est une... Il dépend une réalité. Et je crois que la question est moins de savoir si c'est Alain Juppé le responsable du tournant de 95. D'une certaine manière, c'est Jacques Chirac qui est président de la République, qui l'assume et qui l'annonce, que de savoir si la campagne de 1995 n'a pas été une grande illusion. Parce que dans une campagne que la gauche ne pouvait pas gagner, le match entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, avec un Jacques Chirac qui est parti de nulle part, abandonné par tous, a été une campagne qu'il a faite sur la gauche pour essayer justement, je crois, dans une visée qui était une visée essentiellement tactique, malheureusement, de l'emporter.
On s'en souvient, pommes, flatter le cul des vaches.
Sur les convictions politiques de Jacques Chirac, nous nous rejoignons totalement. Mais ce que vous êtes en train de dire, Gilles, est tout de même profondément inquiétant, puisque ce que vous nous expliquez, c'est que tout de même, le peuple français a voté pour une politique. Celui qui était censé porter cette politique n'en croyait pas un mot. Et finalement, si je vous comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, tout ça ne pouvait pas être fait et qu'il n'y avait qu'une seule politique possible qui était celle portée par Alain Juppé. Or là, on rentre dans ce discours que tiennent les politiques depuis 30 ans. There is no alternative. C'est du thatcherisme, Tina. Et c'est le discours qu'a tenu aussi Emmanuel Macron. C'est sa première interview en tant que ministre de l'économie. Encore une fois, j'y vois une continuité.
Je le pense d'autant moins par la preuve. C'est que, en 1997, quand Lionel Jospin a été élu, il n'a pas fait la même politique que celle d'Alain Juppé.
Alors, j'ai tendance à penser que si, sauf sur les questions sociétales et sauf sur le reste, mais sur les questions économiques, il a fait la même politique, il a même privatisé beaucoup plus que ne l'avait fait la droite.
Bon, alors tout ça, on peut refaire l'histoire.
Et oui, mais c'est crucial.
Encore une fois, bien sûr.
Le traité européen que signe, le traité budgétaire que signe à l'époque Lionel Jospin, alors qu'il a prétendu qu'il allait le renégocier, on a l'impression de vivre exactement ce qu'on vivra avec François Hollande quelques années plus tard. C'est exactement le même processus. Il y ajoute juste un petit codicille sur la croissance à la fin, c'est-à-dire rien. Et on est dans l'acceptation. Il est allé main dans la main avec Jacques Chirac pour décider de la privatisation des services publics en Europe.
Si vous survivez, Gilles, oui, Alain
pardon.
Juppé,
on va revenir... Pardon, là j'abuse de votre faiblesse, Gilles, et j'en suis désolé.
Au sujet, mais son départ pour le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il va manquer à la droite d'un mot et on va changer de sujet?
Je ne sais pas où était Alain Juppé.
Il était candidat à la candidature de la droite républicaine.
Non, il était chez Emmanuel Macron.
Non, ça ne m'a pas échappé. Mais ça, c'était pour les primaires de la droite. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il était aujourd'hui, disons, dans un second cercle de la Macronie. Et d'ailleurs, on voit que là où la nouvelle politique rejoint merveilleusement l'ancienne, c'est que, eh bien, le président du Sénat a nommé un homme de droite et que le président de l'Assemblée nationale et le président de la République ont nommé l'un et l'autre un macroniste.
Trois hommes pour trois postes, oui. Pas de femmes. Et il va rejoindre le Conseil constitutionnel où il retrouvera Laurent Fabius. Et un chassé croisé puisqu'Alain Juppé va remplacer Lionel Jospin. Autant de personnes qui ont rêvé d'être président de la République et qui n'y seront pas arrivés.
C'est vrai, c'est une forme d'ironie de l'histoire. On essaye depuis des années, et on a raison, de faire en sorte que les anciens présidents de la République qui sont membres de droit, ce qui est une anomalie, ne le soient plus. Et de fait, ceux qui n'ont pas réussi à devenir président de la République, qui ont été Premier ministre mais qui n'ont pas réussi à devenir président de la République, le deviennent à leur tour membres du Conseil constitutionnel. En revanche, l'autre point sur le déséquilibre, en un mot, vous avez raison, il y avait jusqu'à présent un équilibre dans les nominations depuis une dizaine d'années entre les hommes et les femmes. Il y avait un équilibre entre les responsables politiques et les juristes. Là, ce sont trois hommes, trois responsables politiques. Cet équilibre-là a été rompu.
En effet, et la question, me semble-t-il, à se poser est de savoir s'il faut continuer à les appeler des sages.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et dans l'actualité, ce scandale, la Ligue du LOL, ce groupe Facebook composé d'une trentaine de journalistes, tous accusés d'avoir participé à des campagnes de harcèlement, le plus souvent sexistes, sur les réseaux sociaux et au début des années 2010, avec des canulars souvent très cruels, évidemment souvent anonymes. Comment lutter contre la haine et le harcèlement en ligne? C'est la question que pose cette affaire, Natacha?
Pas seulement. Il y a différentes entrées dans cette affaire-là. Il y a la question, évidemment, de l'esprit de bande et du sentiment de toute-puissance et de ce que ça réveille de bassesse chez beaucoup d'êtres humains dans tous les milieux, vraiment de façon tout à fait universelle. Il y a la question spécifique du sexisme dans chaque milieu professionnel et de la façon dont chacun essaye de se distribuer les postes et de les gagner en éliminant des concurrents potentiels. Et de ce point de vue-là, les femmes peuvent apparaître comme des concurrentes. Et on voit très bien la mécanique qui s'est mise en place. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant là-dedans. D'abord, il y a ce principe de l'arroseur arrosé, ou plutôt du moralisateur, de l'inquisiteur qui tout à coup est dévoilé comme un tartuffe.
Comment ça ?
C'est-à-dire que tous ces gens qui aujourd'hui sont accusés de cela font partie de ceux qui ont développé un journalisme très donneur de leçons, très moralisateur sur le progressisme et justement sur les sujets sur lesquels ils sont attaqués aujourd'hui. C'est cela qui est assez intéressant. Et enfin, je crois que la dimension pour moi la plus importante, c'est le fait que cela révèle le poids qu'ont pris les réseaux sociaux à un moment dans le journalisme. Ces gens ont acquis une place dans des rédactions parce qu'ils étaient implantés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, et j'espère qu'on en sort un peu, où pour progresser dans le journalisme, il valait mieux être puissant sur Facebook ou sur Twitter que d'être capable d'aller rencontrer la France profonde dans des reportages. Et je pense que nous avons la conséquence aussi de la défiance vis-à-vis des journalistes aujourd'hui.
Gilles.
Alors, je suis largement d'accord avec Natacha. L'effet de bande, qui n'est pas quelque chose qu'on a pu connaître dans les cours de récréation depuis fort longtemps, mais qui est là, amplifié par l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux. Je suis frappé, moi, aussi par la rapidité et la netteté des sanctions, partout. Ceux qui ont été...
Mis à pied ou licenciement ?
Oui, mis en pied ou licenciement extrêmement rapide parce que, en fait, il y a un effet de marque pour les journaux dans lesquels il collabore. Et que le simple fait d'avoir comme collaborateur quelqu'un qui est marqué par cette action-là est un obstacle, qui est un obstacle pour eux diriment, même si parfois les sanctions peuvent être rapides, qu'on sait exactement ce que chacun a fait. Et puis le dernier débat, c'est la question de l'anonymat, qui a quand même été beaucoup soulevé par cette affaire, et je crois soulevé souvent à tort. En l'espèce, beaucoup n'étaient pas anonymes, et c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas anonymes que leurs actions avaient du poids, et parce que l'anonymat sur Internet n'est pas une réalité. Si vous faites une infraction, même si vous êtes anonyme, eh bien vous êtes retrouvé.